Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Dans le rendez-vous tech aujourd'hui, on va dire au revoir au vénérable et mythique Skyblog. On va aussi parler de Midjourney 5.2 et un faux vrai faux Patrick. Et on va aussi évoquer la question du Canada contre Meta. Ils tentent des choses qu'on a tentées par ailleurs. On verra s'ils réussiront mieux. C'est parti tout de suite, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 519 en juin 2023. Je suis Patrick Béja et je remercie FL360, pas 180, pas 720, 360 et Aeberli Benjamin, j'imagine que c'est Benjamin Aeberli. Merci à vous deux d'avoir rejoint la formidable équipe des Patriotes et merci aux producteurs Eric et Wakatp qui soutiennent l'émission au niveau secret de production. Merci à tous les patriotes et toutes les patriotes qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Et dans cet épisode du Rendez-vous Tech, on va avoir des sujets peut-être un petit peu émouvants, qui vont faire couler quelques larmes, qui vont nous énerver, qui vont nous émerveiller, le meilleur de la tech, avec évidemment des co-animateurs de talent et de charme. On commence avec, on commence avec le talent avec Lucie et puis on aura Pascal avec le charme après. Mais en fait, peut-être qu'il faut les deux. Oui, le talent et le charme de tous les côtés. Lucie Ronfaux, bonjour, bienvenue à toi. Comment ça va ?
Bonjour, ça va et toi ?
Écoute, moi je suis hyper heureux de vous avoir tous les deux. C'est complètement adapté au sujet qu'on va traiter. Mais on va y venir. Les Skyblogs, c'est un petit peu, c'est une de tes nombreuses spécialités. Donc j'ai très hâte d'en parler. On a aussi Pascal Forget qui nous rejoint du Canada. Il est 6h du matin pour toi. Merci d'être là. Vraiment, merci. Bah,
c'est comme je le dis toujours, c'est un plaisir, un honneur, un privilège. Je suis honoré d'être ici, que ma voix se transporte à des milliers de kilomètres grâce à la magie de la technologie, que mon visage soit diffusé un peu partout. Très, 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 très flatteur. Je suis en direct du plateau Mont-Royal, alors je croise des Français toutes les 3 secondes sur la rue. Alors, en parler un peu, c'est fantastique.
On a déjà établi le niveau de la qualité de la baguette avant de lancer l'enregistrement avec les amis de Twitch pendant le live. On ne va pas se relancer dans le débat, mais sachez que c'était absolument passionnant. Avant de se lancer dans les gros sujets de la semaine, je voudrais quand même, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, que vous vous présentiez en deux mots. Lucie, tu peux nous rappeler qui tu es ? Bon, toi, on te connaît, mais quand même.
Bien sûr. Donc, je m'appelle Lucie Ronfaux. Moi, je suis journaliste indépendante. Je me spécialise dans la tech, évidemment, plutôt avec un angle sociétal. Et j'écris une newsletter hebdomadaire qui s'appelle Règle 30 et qui traite de l'actualité du numérique avec un point de vue inclusif et féministe.
Merci beaucoup d'être avec nous. Pascal, présente-toi également en quelques mots.
Journaliste spécialisé en technologie, indépendant. Moi, je suis plus gadget, produit, chose que je peux toucher et tester. Je participe au blog, au site web Une Tasse de Tech. J'ai mon podcast qui s'appelle Une Tasse de Tech. Et puis, mon site web, pascalforget.com. Je participe à différents magazines, émissions de télé, émissions de radio. Depuis maintenant 20 ans, ça fait de moi un vieux routier de la technologie. J'ai testé le premier iPhone et il faut que je le dise, à Montréal, on a depuis 2 jours la pire qualité de l'air au monde. C'est à cause des incendies, des feux de forêt qui ont lieu, qui sont dans la province. Et donc, je suis content de respirer ce matin. J'ai la voix qui se désengorge lentement, mais sûrement.
À défaut d'améliorer la santé, ça donne une voix un petit peu rocailleuse, un peu sexy, tu vois.
Elle est naturellement comme ça. Elle est juste...
tu dis Forgette et moi je dis Forgette.
Dans ma famille, mais aucun problème, je comprends tout à fait. Mais étrangement, dans ma famille, on dit Forgette.
D'accord. Écoute, c'est comme ça. Merci d'être avec nous, toi aussi. Et tout de suite, les sujets. Important à retenir avec ce formidable jingle. On fait désormais les trois sujets à retenir que vous devez avoir compris si vous suivez l'actu tech à chaque épisode. Et le premier d'entre eux, c'est une nouvelle véritablement essentielle pour un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices, puisque Skyrock a annoncé qu'ils allaient fermer les Skyblogs, et ça, je peux vous dire que ça fait réagir. Moi, je suis peut-être d'une génération où c'était un tout petit peu derrière moi, les Skyblogs, mais il n'empêche que ça a influencé beaucoup de choses que j'ai vues et connues, et la culture du net, particulièrement en France, évidemment. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je pense que vous n'êtes pas très nombreux, ce sont un petit peu les premiers vrais blogs qui sont apparus sur le web français, et qui ont eu une qui étaient un petit peu utilisés comme des journaux intimes. Vous savez quoi, je vais pas en parler très longtemps parce qu'on a quelqu'un ici qui en parlera bien mieux que moi. Je me doutais que Lucie était assez familière des Skyblogs. Déjà, quand j'ai vu cette news, je me suis dit, ah, c'est cool, on a Lucie, on va bien en parler. Mais tu me disais ce matin que tu as écrit et réalisé une série de podcasts audio pour Binge spécifiquement sur les Skyblogs. J'ai sauté dessus ce matin, j'ai écouté les 4 épisodes, c'était passionnant. Donc,
merci.
Je vais le mentionner tout de suite. Ça s'appelle Les Skyblogs, l'adolescence du web. Vous pouvez trouver ça dans votre app de podcast sur le flux de Programme B, donc le podcast de Binge Audio. Mais du coup, je te laisse la parole. Je pense que tout le monde comprend l'importance des Skyblogs, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi c'est tellement important et puis pourquoi c'est tellement émouvant qu'ils s'en aillent sans vraiment s'en y aller, puisqu'ils vont être figés et conservés à l'INA en plus?
Bien sûr. Alors moi, pour le coup, je suis clairement dans la génération des Skyblogs, parce que les Skyblogs ont été créés en 2002 et moi, en 2002, j'avais 11 ans. Donc les Skyblogs ont vraiment accompagné mes années collège et le début de mes années lycée. Et en fait, la raison pour laquelle j'avais voulu m'intéresser aux Skyblogs, donc la série dont tu parles, elle date de 2020, donc il y a 3 ans. Mmh. Et moi, déjà à l'époque, je trouve toujours aujourd'hui les Skyblogs comme vraiment intéressants. C'est un peu un ovni dans l'histoire du web français. Déjà parce que c'est assez rare en fait que le web français donne naissance à des grosses plateformes, et les Skyblogs à une époque ont été une très grosse plateforme qui avait vraiment des ambitions internationales. Donc le créateur des Skyblogs, c'est Pierre Bélanger, qui est aussi le créateur, PDG fondateur de la chaîne de radio Skyrock. Et Pierre Bélanger, il a eu une intuition. Avant même Facebook, avant même tous ces réseaux sociaux-là, il a eu cette intuition que non seulement on aurait envie de bloguer, mais aussi de se parler les uns les autres. Parce que les Skyblogs, alors oui, c'est des blogs, mais c'était aussi un vrai réseau social. Avant, les Skyblogs, c'est 2002, Facebook a été lancé en 2004, si je me trompe pas. Il y a eu un côté vraiment précurseur des Skyblogs que je trouve vraiment intéressant. Et du coup, c'est pour moi un élément super important, non seulement de la culture web francophone, enfin française en tout cas, parce qu'on en parlait rapidement avec Pascal, mais il ne me semble pas qu'au Québec, par exemple, les Skyblogs étaient populaires, non?
Pas particulièrement.
Pas particulièrement. Donc voilà, c'est un élément très important de la culture web française, mais aussi de la culture française tout court, en fait. Sans les Skyblogs, les Skyblogs ont été un terreau pour d'exploration de l'identité de plein d'ados. Je veux dire, moi, j'avais pas un Skyblog, j'en avais plein, en fonction les Skyblogs il y avait les Skyblogs pour mes meilleurs potes, il y avait les Skyblogs pour mes potes de classe, il y avait le Skyblog dans lequel je mettais mes poèmes, l'autre dans lequel je m'étais consacré à un groupe de rock. Enfin voilà, c'était un vrai terreau d'exploration. Et puis c'était vraiment, je pense, une bulle assez confortable pour pas mal d'internautes. Et moi, je vais pas jouer à la vieille conne, parce que je déteste ça, les gens qui disent que Internet c'était mieux avant. C'est pas vrai, mais en tout cas c'était différent. Et je pense que c'était la dernière expérience qu'on a eue collectivement d'un Internet assez petit. Parce qu'après, il y a eu Facebook, il y a eu Twitter, il y a eu tous ces énormes réseaux sociaux qui sont arrivés, qui ont vraiment rendu le web très horizontal. Aujourd'hui, quand on est sur Twitter, c'est pas pour parler seulement à nos amis, hein, c'est pour parler à plein de gens. Et je veux dire, alors il y a un retour vers un web plus petit au travers de comptes privés, ce genre de choses, mais n'empêche que maintenant on est beaucoup plus dans un web horizontal, et les Skyblogs, c'était un peu plus vertical, c'était un peu plus segmenté. Et voilà, je me suis un peu étalée, mais moi je trouve que c'est un objet fascinant. Et je peux pas dire que je suis très triste que les Skyblocks s'arrêtent. Alors ils étaient encore utilisés. Dans ma série, j'ai discuté avec des gens qui utilisaient encore aujourd'hui les Skyblocks, notamment des associations, parce qu'elles trouvaient la plateforme assez accessible, parce que c'était tout en français. Mais bon, ils ont clairement fait leur temps. Et puis en plus, Lina a annoncé qu'ils allaient archiver, je sais plus combien de Skyblocks. Donc a priori, les Skyblocks vont pas disparaître dans le néant. Donc,
déjà, ils seront figés par la plateforme, donc ils ne devraient pas être supprimés, au moins pour un moment. Donc les gens qui disent « Ah bah, je suis content que mon Skyblock disparaisse enfin », malheureusement, c'est raté. Il faut retrouver votre mot de passe pour le supprimer. Mais effectivement, Lina va en archiver une énorme partie. Je me demande s'ils n'ont pas dit qu'ils allaient tout archiver, tout simplement, mais je me trompe. Je crois que c'est ça. Hein.
Je sais qu'ils font en collaboration. Ils font ça en collaboration avec Skyrock, en tout cas. Donc, c'est ça.
Dans l'annonce de Pierre Bélanger, il dit que les blogs seront sauvegardés par l'INA et la Bibliothèque nationale de France. Et c'est marrant parce que ça montre vraiment à quel point il s'agit d'un monument sociétal de l'époque et de la construction du net en France. Et c'est vrai que, comme tu le disais, il y a toute une génération qui utilisait les Skyblogs, qui étaient un petit peu protéiformes, mais ça fait beaucoup... Ça faisait à la fois journal intime, et on l'adressait, comme tu disais, à une petite communauté. Alors, évidemment, il y en avait qui explosaient. Ça s'appelle comment?
Skyblockstar.
C'est ça, Skyblockstar, qui du coup a été énormément suivi, mais généralement, c'était quand même relativement limité, beaucoup plus que ne peuvent l'être les réseaux sociaux aujourd'hui. D'ailleurs, tu le mentionnes dans ta série audio. Tu dis, le moment où Facebook est arrivé, il y a vraiment eu, c'est ce que tu disais à l'instant, il y a vraiment eu un shift dans la manière dont on utilisait Internet. Et Skyblog reste cette période qui est évidemment peut-être un petit peu patinée de nostalgie pour les gens qui l'utilisaient très jeunes à l'époque. Mais c'était un moyen de s'exprimer. Et pour les ados de l'époque, c'était quoi, 2002, 2010, quelque chose comme... oui, 2000, on va dire 2004, quand ça avait vraiment commencé à exploser, à 2008, 2010. Donc, cette petite tranche. Voilà, la grande époque où les gens avaient des Skyblogs. Et ce qui me frappe dans ta série également, c'est à quel point certains et certaines l'utilisaient comme un, on l'a déjà dit, mais un journal intime, et qu'ils n'attendaient presque pas d'être lus. Et que même quand ils savaient qu'ils étaient lus, c'était peut-être une personne qui témoignait en sens, même quand ils savaient qu'ils étaient lus, le fait que les gens leur parlent de ce qu'ils avaient lu les rendait presque mal à l'aise, tellement c'était considéré comme un moyen d'exorciser des pensées qui étaient presque, oui, un journal intime, quoi.
Ouais, complètement. Mais j'interviewe notamment une jeune femme qui s'appelait Toutes les Terres. Si vous étiez sur Skyblog à l'époque, vous devez la connaître, parce qu'elle était assez connue. Et elle avait complètement cette démarche. Je l'ai retrouvée du coup en tant qu'adulte, et elle m'expliquait que sa démarche à elle, c'était vraiment ce côté journal intime, parce qu'à l'époque, c'était pas bizarre en fait de raconter sa vie sur Internet, enfin de la raconter sans filtre, parce qu'on raconte toujours notre vie sur Internet, mais on la met beaucoup plus en scène aujourd'hui. À l'époque, on n'avait pas trop conscience de ça, parce que le web était différent, tout simplement. Et elle raconte qu'en fait, elle a arrêté à partir du moment où elle est devenue tellement connue qu'on la reconnaissait dans la rue, et que du coup, elle avait un peu perdu ce côté un peu intime, mais qui était factice, hein, parce que ça a jamais été intime, cette histoire, ouais, puisque c'était accessible à tout le monde. Mais ça l'a un peu perturbé, quoi. Mais c'est marrant, parce que j'ai aussi, par exemple, j'ai retrouvé l'une de mes témoins. Je l'ai retrouvée parce que elle avait à l'époque l'un des Skyblogs dédiés à Harry Potter les plus populaires de la plateforme. Elle faisait des gifs des films. Alors elle faisait ça sur Windows Movie Maker, enfin bon, vraiment c'était l'internet des galériens à l'époque.
Ouais. Non, mais il faut le dire, elle prenait les images des films ou des trailers, et elle capturait à la main, oui, des trames, genre toutes les 3-4 trames de la vidéo, elle les capturait et elle les recomposait en GIF dans Movie Maker, mais en ayant des captures d'écran, quoi.
C'était... Ouais. Et elle mentionne ce Skyblog sur son compte LinkedIn. Parce qu'en fait, bah voilà, à l'époque, il était assez populaire, ça lui a ouvert des portes, et elle n'en a pas honte, quoi.
Mais c'est ça, il y a cet autre facteur qui est que pendant un moment, et encore peut-être aujourd'hui, d'ailleurs certains l'expriment en disant « je suis content qu'ils disparaissent », au bout d'un moment, c'est un petit peu devenu la honte, Skyblog, parce que peut-être pour une question d'âge, on n'était plus dans la même tranche, et puis c'était les débuts, on ne savait pas ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde y repense avec une nostalgie très bienveillante. Même s'il y a eu des problématiques, évidemment, les jeunes incitent à la violence sur Internet et sur les skyblogs. Il y a eu ce genre de controverse, évidemment, aussi, c'est inévitable. Mais aujourd'hui, l'image des skyblogs est quand même assez douce, j'ai l'impression.
Oui, alors ça participe aussi à... On est en plein dans la nostalgie des années 2000 actuellement, ouais. Pas seulement en ligne, mais en général, la mode. Enfin, moi, quand je vais dans la rue et que je vois des adolescentes dans la rue, elles sont habillées comme moi quand j'avais 11 ans, quoi. Donc c'est assez rigolo. Mais donc il y a cette nostalgie plus globale des années 2000. Et puis en général, on est nostalgique de ce qu'on a fait sur Internet avant, et je suis sûre qu'on sera nostalgique de ce qu'on fait actuellement dans 10-20 ans. Je veux dire, c'est pour ça que moi je dis jamais Internet c'était mieux avant. Non, Internet c'était différent. Voilà, Internet correspond à notre époque et les outils qu'on a, et on en fait ce qu'on en fait. Et voilà. Et c'est vrai. Mais t'as raison de mentionner aussi, Patrick, tous les aspects de violence, parce que moi, ce qui m'a frappé en fait dans mon enquête sur les skyblogs, donc je me suis non seulement intéressée aux utilisateurs et utilisatrices, mais aussi en interne. Comment est-ce qu'on a construit les skyblogs? Et alors, il faut le savoir, les skyblogs, c'était vraiment construit avec trois bouts de ficelle. Hein. Il y avait vraiment, au début, c'était une toute petite équipe. Et ils ont été confrontés, bien avant les autres, à des problèmes type la modération. Par exemple, un adolescent menace de se suicider sur son skyblog, qui est responsable? Ça, en fait, c'est skyblog qui a essuyé les plâtres un peu de ces débats-là, parce qu'en France, on n'avait pas encore été confronté à ces sujets. Quoi. Donc,
ouais, tout, c'est vraiment un pan de l'histoire.
Ouais, et c'est important de le considérer en tant que tel, quoi, de pas le mépriser, de voilà, les skyblogs, ça fait partie de notre histoire.
Je crois que les réactions ont quand même été assez bienveillantes à tous ces points, à tous ces égards, avec l'annonce de la fermeture. Mais bon, c'est comme ils le disent avec leur image, c'est skyblog 2002 à l'infini. Les skyblogs resteront dans nos archives et dans nos mémoires. Pascal, vous avez cette période aussi du début des années 2000, milieu des années 2000, avec un Internet qu'on a perdu et auquel on pense avec nostalgie.
Oui. Ah oui, totalement. On avait un site qui s'appelait Branchez-vous, qui était à l'époque évidemment très révolutionnaire. C'est un site québécois où on diffusait des trucs. Et le souvenir que Lucie me rappelle, c'est que j'ai travaillé dans une émission de télévision qui s'appelait « La revanche des nerds ». Où on avait une collaboratrice qui s'appelait Brigitte Gemme, qui était à l'époque considérée comme une des premières blogueuses qui racontait un journal intime, et elle est devenue chroniqueuse à l'émission. Elle participait à l'émission en raison de sa connaissance du web et tout. Elle est maintenant spécialiste en recherche du web et tout. C'est assez fantastique comme parcours. Mais à l'époque, cette notion-là de partager son quotidien, son vécu, ses émotions, ses rencontres et tout, le carnet intime sur le web... qui, évidemment, s'est commercialisé par la suite. Je pense que les blogs, c'est ce qui est arrivé. C'est devenu de plus en plus commercial, parce que pour produire du contenu chaque jour, c'est joli, mais c'est pas durable, parce qu'à un moment donné, il faut travailler, il faut faire autre chose. Mais c'était une belle, belle, belle époque du web, le web québécois qui disparaît un jour. Mais je cherche la plateforme sur laquelle Brigitte écrivait son journal. Je cherche sur Google depuis tout à l'heure et je ne trouve pas.
Tu la retrouves pas? Écoute, Branchez-vous a l'air d'encore exister. Je ne sais pas si c'est la même plateforme.
Branchez-vous a été racheté, disparu, reparti, maintenant acheté par
c'est
un
ça
groupe
qui... est...
qui
Sans vouloir repartir sur les skyblogs, c'est ça aussi qui est notable avec cette plateforme, c'est que même si elle est passée à deux doigts d'une croissance vraiment notable, avec la question d'un rachat par Yahoo à un moment, etc., au final, la plateforme est restée un petit peu figée dans son format des années 2000. Et donc, ça aussi, ça rajoute un petit peu à la mystique du truc. C'est vraiment drôle, parce que quand on va sur Branchez-vous, ça a été racheté comme toutes les plateformes du web. Les skyblogs de Skyrock restent avec cette esthétique presque. Et quand je vois les images des skyblogs mentionnés dans certains articles, notamment chez Numérama, je vois par exemple les blogs sur les frères Scott. Je suis sûr qu'il y a eu des trucs sur les Gilmore Girls, enfin tous les trucs de cette époque que moi j'adorais aussi. J'étais un grand fan enfin, des frères Scott, merde, comment elle s'appelait la série? Putain, je suis grand fan et puis j'oublie. Bref, vous me le rappellerez. Mais oui, c'est resté complètement sur ce mode-là, avec les trucs arc-en-ciel, le bouton envoyer un mail avec la petite gif du mail de l'enveloppe qui se ferme, tout ça. Truc du début des années 2000, et c'est encore comme ça sur les skyblogs aujourd'hui. Donc. Bon, écoutez, voilà pour ce petit segment nostalgie. On se devait de rendre hommage au skyblog qui nous quitte, mais qui ne nous quitte pas vraiment. Je voudrais parler un petit peu d'IA également, avec la sortie notamment de Midjourney 5.2, qui ajoute des fonctionnalités vraiment intéressantes à la plateforme, dont une fonctionnalité qui mimique un petit peu ce qu'on a vu avec Firefly, l'IA de Photoshop, qui permet de dézoomer d'une image qui a été créée par Midjourney. C'est-à-dire qu'on lui demande, on lui fait faire une image, et puis on lui demande ensuite de dézoomer, et l'IA imagine ce qu'il y a autour de l'image de base pour en faire une image plus grand angle, en fait. Et ça fonctionne incroyablement bien. On a vu déjà... En fait, on en parlait avec l'IA de Photoshop les semaines précédentes. Il y a notamment des gens qui ont imaginé avec ce qu'il y avait autour, enfin, qui ont fait faire ça à l'IA, avec des albums, des albums de musique. Et ça donne donc l'environnement de l'illustration de l'album, c'est assez impressionnant. Là, on ne peut pas le faire avec des images existantes, mais uniquement avec des images déjà générées par Midjourney, et ça donne un résultat qui est confondant. En plus de ça, l'algorithme de Midjourney lui-même est amélioré avec la version 5.2. Il y a également une fonctionnalité qui permet d'avoir une... réduction du prompt qu'on propose, c'est-à-dire que nous, on va écrire un prompt super détaillé, super long, on lui dit raccourcis-moi ça, il va nous dire ok, tu jettes tel et tel et tel et tel truc, et voilà le prompt que tu devrais utiliser pour avoir le même résultat. Ça fonctionne très bien également, mais cette fonctionnalité de dézoom est vraiment, vraiment impressionnante. Je pensais en parler un peu plus longuement, mais entre-temps, on a un auditeur qui traîne sur le Discord dans le channel générative IA, enfin IA générative, qui nous a publié quelque chose, qui est un test de Patrick, pas Béja, mais Patrick Bégé, avec une illustration absolument formidable. Et je voudrais vous faire écouter ça. Je vous avais déjà partagé des voix synthétisées basées sur mon... ma voix, qui avait été créée par l'algorithme de Eleven Labs. Et là, ce qu'il a fait, c'est sur son... Il fait ça sur son site Tales Audio, sur talesaudio.com. Là, je vais vous passer la version YouTube. Je vous fais écouter ça. Voyez la qualité du résultat. Je vous dirai comment c'est fait après. C'est pas aussi simple que Eleven Labs. Mais écoutez ça.
Tous, je suis Patrick Bégé et vous écoutez le Rendez-vous Tech. Alors, le Rendez-vous Tech, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, eh bien, c'est une émission qui parle de tous les meubles en tech, hein, les tables en tech, les chaises en tech et toute l'actualité du bois exotique. Et alors, j'ai voulu tenter quelque chose, hein, quelque chose de souvent surhomme, c'est moi, Patrick, j'enregistre, je monte, je...
Bon, là, c'est une chanson,
quelque chose,
hein,
quelque chose de nouveau. J'ai décidé de chanter sur le thème du générique Pac-Man, qui était à l'origine chanté par William Lémergie. On écoute ça tout de suite. Rond commun.
Bon, je vais pas vous mettre la chanson, vous pourrez aller l'écouter tout seul. Mais la qualité de la voix par rapport à ce qu'on a entendu avant sur Eleven Labs est vraiment saisissante. Et j'ai été complètement éberlué par la qualité du truc. On n'est pas à 100% de ma voix réelle, mais je pense qu'on est là où, avec Eleven Labs, on était peut-être à 70%. Là, on est à 90-95%, quoi. C'est vraiment incroyable à quel point on est proche de la voix d'origine. Maintenant, ce n'est pas aussi simple qu'on enregistre 5 minutes de voix, on fait mouliner ça dans leur système... Et puis ensuite, on tape un texte et il le fait tout seul. En fait, on est plus proche d'une sorte de deepfake audio, comme on peut l'avoir pour la vidéo, où le visage est remplacé et va suivre l'animation du visage d'origine avec un visage de remplacement. Là, en fait, il enregistre avec sa voix à lui. Alors d'abord, il a entraîné un modèle spécifiquement sur quelque chose comme... bien plus longtemps... d'audio, je crois qu'il disait une demi-heure, donc c'est pas non plus impossible, mais une demi-heure d'audio. Et puis surtout, il a créé beaucoup plus longtemps avec le résultat. Il a créé genre 30 minutes pour le réduire à une minute et demie. Il a fait les inflexions avec sa propre voix. Donc, on a véritablement un transfert de timbre de voix plutôt qu'une génération complètement générée synthétique. Mais il n'empêche, le résultat est vraiment saisissant, quoi. Moi, je suis émerveillé par la voix de Patrick Bégé. Si vous le voyez sur l'illustration, il est assez Bégé, Patrick, là, il faut le dire. Il aurait pu avoir sa place sur un Skyblog, je pense. Je ne sais pas si vous avez entendu... Normalement,
non,
vous
n'avez pas de retour.
Merde. Vous n'aviez pas de retour, c'est pour
on
ça
On n'a pas
que...
osé t'interrompre.
Ah, Damned, alors attendez, vous savez quoi, je vais le pour le plaisir, je vais le refaire.
J'ai voulu tenter quelque chose, hein, quelque Et... chose de nouveau. J'ai décidé de chanter sur le thème
alors,
du...
Alors attendez, vous n'avez pas de retour. Normalement, vous avez
on t'entend toi, mais on n'entend pas, on n'entend pas le faux, toi. Je...
D'accord, nous,
on
vous n'entendez pas
de l'original.
Faux,
oui, moi je préfère l'original à la copie. Hein.
Attendez, on va réussir, hop, parce que je veux quand même avoir votre réaction. Tac, si je fais comme ça, est-ce que vous entendez tout à l'heure
générique Pac-Man, qui était à l'origine chanté par William Lemergy. On écoute ça tout de suite. Rond comme un ballon et fidèle à Patreon, c'est moi Patrick. Gentil petit bonhomme que l'on dit souvent sur homme, c'est moi Patrick.
Je remets
et
la
toute
voix
l'actualité
normale.
Du. Eh bien, c'est une émission qui parle de tous les meubles en tech, hein, les tables en tech, les chaises en tech et toute l'actualité du bois exotique. Et alors, j'ai voulu tenter quelque chose de nouveau. J'ai décidé de chanter sur le thème du générique Pac-Man, qui était à l'origine chanté par William Lemaire.
Voilà, je vais m'arrêter là. C'est saisissant.
Alors, moi, je ne comprends pas comment tu peux écouter ça et trouver ça incroyable. Pour moi, c'est terrifiant.
C'est vrai?
Alors, après, moi, je suis un peu la rabat-joie sur ces sujets, mais je rappelle toujours que toutes les technologies de deepfake, elles sont avant tout utilisées à des fins de harcèlement actuellement, oui. Notamment à des fins de harcèlement sexiste. C'est particulièrement vrai pour les deepfakes d'image, mais ça va l'être de plus en plus pour l'audio. Donc, techniquement, c'est bluffant. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais moi, je m'inquiète vraiment beaucoup de l'utilisation de ce genre de techno, pas à des fins de manipulation politique. Moi, je pense vraiment au harcèlement des individus, quoi.
Bah, je suis content que tu sois là pour cette raison aussi. Évidemment, on l'aurait évoqué. Le truc, c'est que, bon, d'une part, pour arriver à ce résultat, je vais peut-être vous sortir la version que moi j'avais fait en beaucoup plus rapide. Alors, j'ai la voix Patrick Français, tac, 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 History. Je vais vous rejoindre un truc que j'ai créé, un truc facile à créer. Ça donne à peu près
Pokémon,
ça.
À chaque Pokémon, cette interrogation, plus appuyée que jamais avec la sortie de Pokémon Legend Arceus. Comment se fait-il que ces jeux soient si pauvres techniquement alors qu'il s'agit d'une des licences les plus lucratives de l'histoire?
Alors là, c'est ce qu'on peut faire avec un outil qui génère ça très rapidement. Encore une fois, ce qu'a fait Tails Audio pour la version qui fonctionne, ça demande énormément de travail. Là, avec Eleven Labs, le truc qu'on fait rapidement, c'est 5 minutes d'enregistrement, et puis on tape le texte et ça vous le ressort. Donc, la qualité n'est pas encore là. Mais à vrai dire, ce qu'on voit comme qualité de chez Tails Audio, je pense qu'on finira par y arriver. Donc, ces préoccupations que tu évoques, Lucie, à la fois, elles sont évidemment... elles devraient être comment dire, parmi les premières qu'on considère quand on parle de ce genre de technologie, mais en même temps, je crains que ça soit inévitable que ces technologies arrivent à un moment. Alors, elles seront utilisées pour plein de choses, mais est-ce que tu penses qu'on peut, au-delà de je sais pas, faire des lois et que le législateur s'intéresse à ces sujets pour codifier les choses et codifier l'utilisation, on va pas pouvoir éviter la chose, non?
Ouais, moi je suis pas super fan du discours on peut pas l'éviter, parce qu'en fait si on aurait pu l'éviter si on avait pensé à ces questions avant, c'est toujours la même chose sur ces sujets de société.
Mais c'est difficile à ces questions quand on n'a pas le truc, on peut penser à tout, mais il faut aussi que la chose soit réelle avant de commencer à s'y intéresser de manière approfondie. Encore que là on savait que ça allait arriver, quoi.
Voilà, en même temps, dans le cas spécifique des deepfakes audio, ça arrive après le deepfake vidéo qui existe depuis plusieurs années. Ces sujets sont quand même vachement débattus depuis très longtemps. Moi, j'ai pas vu beaucoup de boîtes. Alors oui, elles font toutes des communiqués en disant qu'il faut pas l'utiliser à des fins machin. N'empêche que ces technos sont utilisées dans ce cadre-là. Et je voulais juste rajouter un truc, quand je parle de deepfake à des fins de harcèlement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en fait, c'est pas important si le résultat est réaliste ou pas. Ce qu'on observe dans les cas de harcèlement à base de deepfake vidéo, c'est que la plupart de ces vidéos sont de très mauvaise qualité. Souvent, c'est pas du tout réaliste et on ne croit pas du tout que la victime, la personne qui fait l'objet de ce harcèlement, a effectivement tourné une vidéo porno, parce que souvent c'est ça, hein, le harcèlement de deepfake. Le but, c'est pas de tromper, le but, c'est d'humilier. Et du coup, c'est ça qui m'inquiète, en fait, c'est que on a des nouveaux outils pour humilier encore plus des personnes. Alors après, moi, je n'ai pas une baguette magique. Hein, je ne crois pas effectivement qu'on puisse faire disparaître ces technologies, et je ne pense pas que ce soit souhaitable non plus. Moi, ce qui m'embête, c'est que ce débat, on l'a pas si souvent que ça, en fait. Ce débat, moi, j'ai beaucoup plus vu d'articles qui s'émerveillaient des performances de ces technos plutôt que de questionner leurs enjeux éthiques. Donc c'est pour ça que je voulais prendre le temps d'en parler.
Bah, t'as raison de le rappeler. J'espère que on en parle suffisamment dans cette émission. On le fait quand même régulièrement. Mais effectivement, le problème, c'est que c'est le problème de la modération sur Internet en général. Et je sais pas. Enfin, je veux pas dire je sais pas comment on peut le résoudre parce qu'il faut pouvoir le résoudre. Mais en même temps, c'est un problème qui ne se
donc ça soit une priorité économique pour les plateformes, mais ça n'a jamais été le cas.
Il y a, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Pascal ? Il y a la question du réalisme, la question des problématiques, effectivement. C'est quelque chose dont on parle déjà au Canada. J'imagine qu'on en parle partout, mais...
La blague qu'on fait souvent, moi et mon collègue du podcast Une Tasse de Tech, c'est un jour, on va être remplacé. En faisant de la radio, c'est la même chose. Chaque fois que j'en parle à la radio, un jour, est-ce qu'on va nous remplacer? J'ai la voix enrouée un matin, je ne suis pas disponible, je tape quelques textes, et boum, ma chronique est remplacée par une voix synthétique. On voit déjà des artistes qui utilisent leur voix. Je pense celui qui fait la voix de Darth Vader dans Star Wars a légué sa voix, si je ne m'abuse, pour qu'elle soit utilisée éternellement de façon numérique. Est-ce qu'un jour, on va négocier sa retraite en disant « je vais utiliser éternellement » pour des médias de confort. La radio, si souvent on écoute tel animateur à telle heure parce qu'il nous apaise, on l'aime bien, il a une voix agréable pour tel type de documentaire. Peut-être qu'un jour, les jeunes créateurs vont devoir travailler très dur. Ça va être beaucoup moins coûteux d'utiliser une voix synthétique qui est toujours disponible, toujours prête pour une mise à jour du documentaire. Moi, je suis un peu terrifié par ça. Et la voix n'a pas besoin d'être à 100%. Moi, la voix que tu m'as fait entendre, tu dis on n'est pas tout à fait là. Je suis d'accord qu'il y a quelques moments où je me disais ouf, mais si on parle de transmission électronique de ta voix, des fois il y a des petits glitches, des fois il y a des petits pépins de transmission. Je me dis ah, ben, c'est tout simplement son micro, c'est tout simplement la connexion qui n'est pas très bonne, il y a un petit flou et c'est pour ça qu'il y a un tremblotement dans la voix qui n'est pas habituel. Mais moi, avoir entendu ça, tu me laisses un message. Vocal en disant hey, Pascal, peux-tu s'il te plaît m'envoyer 500 euros je suis dans honnêtement, j'aurais été troublé.
Oui, bah c'est d'ailleurs il y a plein d'utilisations qui sont en train d'être imaginées. C'est un petit peu, je l'ai pas très bien dit tout à l'heure quand je répondais à Lucie, mais l'un des problèmes, alors celui des deepfakes, effectivement, on le voit venir depuis longtemps, mais il y a tellement d'utilisations qu'on ne peut pas imaginer avant que la technologie soit disponible. Tu disais. Tu peux, par exemple, synthétiser la voix et l'envoyer un message pour demander de l'argent. Ce genre de choses, ça peut tout à fait se produire. Il y a Apple qui, semble-t-il, est en train de travailler à la possibilité de faire lire vos messages textes envoyés par une voix synthétique créée à partir de votre voix. La vente des droits aux voix, qui est d'ailleurs l'un des nombreux sujets qui angoissent et frustrent les artistes dans tous les domaines.
Il y a la question du scrapping, hein, parce que ces machines, elles ne créent pas de rien. Ces machines sont puissantes parce que les humains le sont avant tout. Et c'est ça tout l'enjeu, quoi. Il y avait une université américaine, je me rappelle plus laquelle, qui avait fait un super projet que j'ai trouvé vachement intéressant, qui avait créé un logiciel pour ajouter une surcouche au-dessus d'images publiées en ligne qui les rendaient indéchiffrables par les outils type DALL-E, ce genre de machines.
Qui faisait que les modèles ne pouvaient plus comprendre les images, effectivement, et c'était une surcouche qui était invisible à l'œil des humains. Tout à fait, je ne me souviens plus du nom de l'université non plus.
Glaze, je crois. Ouais. Il me semble que ça s'appelait Glaze.
Possible. Mais oui, donc tous ces problèmes vont se poser et le truc, c'est que si on... Je ne veux pas mettre de côté la question des problèmes que ça va poser, mais un petit peu comme la presse a été chamboulée par l'arrivée du net, on a beau se battre, taper des pieds et dire ou ignorer, ou je sais pas, quand on était, je sais pas, à la presse dans les années 90, bah à un moment ça a fini par arriver. On va parler de la presse et d'Internet dans une seconde, mais ce genre de technologie va de toute façon arriver. Et donc, il faut les gérer. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que les responsables politiques et s'y intéressent aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est le cas. Hein. Pour des questions de droits d'auteur, pour des questions d'utilisation frauduleuse, pour des questions de harcèlement, Mais on ne peut pas l'éviter. Ça va arriver, de toute façon. Est-ce que... Peut-être qu'on répète ce qu'on vient de dire, mais Lucie, ça, de toute façon, ça va être... courant dans quelques années, ce genre de technologie.
Encore une fois, moi, j'entends ce que tu dis, hein, mais moi, je suis vraiment pas dans cette démarche de pensée. Mmh. Moi, je pense qu'on a toujours le choix d'utiliser ou pas une certaine technologie, et que les technologies sont ce qu'on en fait, et qu'on a besoin d'un débat de société à ce sujet. Et qu'il y a aussi ce truc de, d'un coup, il y a toute une petite catégorie de la population qui nous a dit que ChatGPT et les IA génératives étaient l'avenir. Qui a décidé de ça, en fait? Pas moi. Je dis pas que je suis contre ces IA en soi, mais pourquoi on les utilise? Dans quel cadre on les utilise? Pourquoi j'utilise la tech? Et moi, j'aimerais qu'on ait un débat, en fait, très. Et c'est super qu'on l'ait ici, mais là, on l'a entre personnes qui s'y connaissent dans ces sujets, auprès d'une audience qui s'intéresse déjà à la tech. Honnêtement, j'aurais envie qu'on ait un débat de société là-dessus.
Je crois que dans le domaine de... Enfin, on ne peut pas avoir genre le référendum sur l'IA dans le pays du jour au lendemain, mais j'ai l'impression que les instances d'autorité s'y intéressent. Moi, je craignais il y a quelques mois que ça ne soit pas le cas, et j'ai l'impression qu'au contraire, il y a des débats qui ont lieu dans tous les parlements, dans tous les, tu vois, les instances représentatives, dans la tech. Et tu disais... Qui a décidé que ça allait être l'avenir? Bah, c'est l'une des technologies qui a été le plus adoptée, le plus rapidement dans le monde. Donc, je ne sais pas qui va décider de si c'est l'avenir ou pas. Évidemment, les gens qui les développent vont dire que ça fonctionne très bien et que ça va être utilisé partout. Mais dans la pratique, il y a des sondages, pas des sondages, mais des chiffres qui tombent sur la quantité, le pourcentage de la population qui utilise ChatGPT, par exemple, ou qui a déjà utilisé ChatGPT. Les chiffres sont hallucinants. On est à des 50, 60, 70% des professionnels qui ont déjà généré un texte avec ChatGPT pour le boulot. Donc, qui a décidé que ça allait être l'avenir? Bah, c'est les usagers, tu vois, ça fonctionne. Et je ne sais pas qui...
Ouais, mais pourquoi, tu vois, enfin, on a aussi toute une couverture médiatique qui nous dit que ChatGPT va nous voler nos emplois. Franchement, il y a une couverture médiatique qui est super angoissante et je trouve pas sur les bons sujets, dans le sens où, pour moi, l'enjeu est... j'avais interviewé Antonio Cassilli, que vous connaissez peut-être, qui est sociologue. Il est basé en France, mais il est italien. Et il s'intéresse notamment beaucoup à tout ce qui est micro-travail. Et lui, il dit un truc que je trouve vraiment intéressant. Il dit « ChatGPT et compagnie ne va pas nous voler notre travail ». Le danger, c'est la précarisation du travail, ce qui n'est pas du tout la même chose. Déjà, ChatGPT, c'est pas un humain. Faut arrêter de décrire ces IA. Je dis pas que c'est ce que vous faites, hein, mais faut arrêter. Il y a une couverture médiatique qui humanise beaucoup ces logiciels, alors qu'au final, ce sont des logiciels construits par des entreprises et ensuite implémentés par d'autres entreprises. Donc moi, c'est ces sujets qui m'intéressent, en fait. Enfin, les autres m'intéressent aussi, mais c'est ces sujets qu'il faut aussi questionner. C'est pas qui décide du jour. Enfin, moi, si un jour on m'annonce qu'on me remplace par une IA, déjà j'en doute, parce que je pense pas qu'une IA soit capable de faire ce que je fais. Si un jour on m'annonce qu'une IA me remplace, bah, c'est pas la faute de l'IA, c'est la faute de la boîte qui décide de me remplacer. Et pourquoi?
Oui, mais qui...
Bref, on
peut
avoir
dire...
ce débat longtemps, hein, mais... Non, je suis désolé, Pascal, je parle beaucoup.
Mais c'est important de... Et je suis content que tu sois là pour mettre le point là-dessus. Oh, on évoque ces sujets aussi, hein, quand on parle de l'IA depuis des mois. Donc,
bien sûr, j'imagine, oui.
C'est des sujets qui sont essentiels. Mais quand tu dis oui, qui décide, la manière dont on va justement réguler ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire avec les IA, ben, c'est parce que les gouvernements... Et les parlements auront décidé d'établir des lois et des règles sur ces sujets. Et j'ai vraiment l'impression que, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union européenne, qu'au niveau du Parlement américain, ces sujets sont en train d'être débattus à une vitesse qui est beaucoup plus importante que ce que j'imaginais il y a un an, quand les IA génératives ont commencé à arriver. Donc, il faut le pointer du doigt, mais Mais du coup, je voudrais peut-être conclure avec une question qui n'est pas du tout provoque, hein, qui est une vraie question. Il y a eu l'idée d'une pause dans les IA pour qu'on puisse y réfléchir qui a été évoquée à un moment. Est-ce que toi, tu penses que ça serait une bonne approche de se dire « Ok, ça va très vite, on fait une pause de 6 mois, 1 an, on y réfléchit tous profondément, intelligemment, on essaye d'évoquer des pistes sur la manière dont on va l'utiliser, et après, on peut peut-être reprendre. » Est-ce que ça, c'est une piste qui pourrait... Ça ne va pas se produire. Mais si tu avais une baguette magique et tu dis « paf, à partir de maintenant, c'est comme ça », est-ce que tu souhaiterais qu'on fasse une pause dans le développement et dans l'utilisation pendant, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, pour qu'on puisse y réfléchir?
Je trouve que c'est un exercice de pensée qui est assez compliqué parce que, comme tu le dis, c'est impossible. Enfin, j'ai du mal à te répondre parce que
Ouais, parce que c'est pas réaliste.
Parce que c'est pas réaliste, en fait. Je pense pas qu'on puisse mettre en pause. Je botte en touche. Je sais pas, Pascal, ce que tu en penses.
Moi, je crois que la mise en pause, quand j'ai lu l'annonce, j'ai ri. J'ai rigolé un peu parce que je me dis « Oh, mettons en pause ». Mais c'est les mêmes acteurs, les mêmes personnes qui, depuis 2 ans, nous disent « Investissons dans l'intelligence artificielle, lançons, développons et tout ». Le lendemain, Elon Musk dévoilait son intelligence la semaine suivante. Là, je me dis « Ces gens-là ne sont pas supposés d'être en pause ». Le type qui demandait de faire une pause de 6 mois, Joshua Bengio, notre Hulk de l'intelligence artificielle du Québec. Dès qu'on parle d'intelligence artificielle au Québec, on parle de Joshua Bengio comme le Superman de la cause. Quelques semaines plus tard, après qu'il a invité à faire une pause, il dévoilait des trucs, il faisait des conférences, il participait à tout. Je me dis, ces gens-là ne sont pas supposés d'être en pause, ne sont pas supposés de juste... Non, la pause n'empêchera pas les mauvais acteurs de poursuivre le développement de leur intelligence artificielle. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que des choses simples, de base, comme par exemple de mettre un filigrane sur les images générées par ChatGPT, par Midjourney ou DALL-E, par exemple, c'est très simple. Tu mets un filigrane électronique qui fait que même si, pas simplement un petit logo dans le coin qui peut être masqué facilement, mais de simplement mettre un filigrane électronique qui fait que je peux tout de suite voir que cette photo-là a été générée. Ça serait très simple. Ça n'empêchera pas, encore une fois, les mauvais acteurs de générer des images sans filigrane. Mais au moins, si les sources les plus populaires mettent un filigrane, ça pourrait limiter grandement, ça pourrait simplifier du moins la reconnaissance des images générées par l'intelligence artificielle. Et je ne comprends pas pourquoi les gestes simples ne sont pas...
Mais c'est un excellent exemple parce que ça fait partie des propositions de l'Union européenne pour l'AI Act. Qui propose beaucoup de choses, dont cette règle-ci. Et c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que, contrairement à ce qu'on peut parfois dire, et d'ailleurs, chez les Nord-Américains, particulièrement aux États-Unis, ça m'énerve prodigieusement quand ils, systématiquement, ils disent « Ah bah oui, il faudrait faire quelque chose », et quand on leur dit « Ah bah le gouvernement est en train de travailler là-dessus, ah bah non, les hommes politiques et les femmes politiques, je fais pas confiance au gouvernement pour régler... » Bah alors tu fais quoi ? Et en l'occurrence, l'Union européenne notamment, mais pas que, hein, est en train de réfléchir à ces sujets, dont cette histoire de filigrane, dont la question de l'ouverture des modèles, dont la question... Donc, je suis complètement d'accord qu'il faut continuer à appuyer sur ces points, mais en même temps, il faut reconnaître que le travail qui doit être fait au plus haut niveau de nos autorités sociétales semble être en train d'être fait. Je ne veux pas être définitif parce qu'on ne sait jamais, mais semble être en train d'être fait. Donc, je crois qu'il est important de le reconnaître aussi, quoi. Qu'on reconnaisse quand le travail est fait correctement pour avoir plus de crédit aussi quand on dit que là, ça ne va pas. Et peut-être qu'on va y venir dans un instant. Justement, le Canada a décidé de voter une loi qui s'appelle la loi C-18, qui, moi, me fait penser à des cyborgs de Dragon Ball, mais c'est une déformation professionnelle. Le Canada a décidé de voter cette loi C-18 qui impose, tu me dis si je me trompe, hein, Pascal, mais qui imposerait aux acteurs du net, en gros les grands réseaux sociaux et Google, de rémunérer les sites de presse quand ils utilisent du contenu produit par ces sites de presse. C'est un débat qu'on a déjà eu en Europe, en France, ça a été implémenté en Espagne, en Australie. Et l'idée, c'est qu'une loi impose à Google, Meta, etc., de reverser une somme, quelle qu'elle soit, à, par exemple, Le Monde, quand quelqu'un poste ou quand quelqu'un poste un truc sur Meta, un article du Monde sur Meta et qu'on voit le titre et un résumé de l'article, ou alors que l'information, le titre apparaît dans Google, Google News ou parfois même les résultats de Google, et donc imposé de rémunérer pour ça. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, en l'occurrence. Enfin, il y a une petite, un petit bémol à apporter, mais en l'occurrence, Meta a dit, bah, écoutez, si la loi passe, c'est très simple, pour nous, ce n'est pas possible. On envoie plein de trafic à ces sites de presse, donc on les aide, nous aussi, par ce biais, et de toute façon, on ne va pas pouvoir payer, donc à partir de maintenant, on ne peut plus poster d'articles de news canadiens sur Meta, et ça règle le problème sur Facebook et sur Instagram, il n'y en aura plus, donc merci, au revoir. Comment est-ce que le débat est appréhendé au Canada? Et est-ce qu'on se rend compte que... alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais retenter, mais ça n'a pas marché ni en Australie, ni en Espagne, ni dans l'UE. Tout ça n'a pas fonctionné. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas à essayer. Mais c'est considéré comment... clairement, ils ont passé la loi. Donc, enfin, je crois.
Hein, oui, c'est ça. Et c'est très délicat. J'ai discuté la semaine dernière avec Caroline Paquet, la présidente de Cogeco Media, qui est une chaîne de radio québécoise, des radios régionales, donc des radios qui souffrent beaucoup, beaucoup, parce que le marché est petit au Canada. On parle au Québec, spécialement les radios francophones, on parle de 8 millions d'habitants au Québec, des petites régions, des régions avec très peu de densité de population. Les radios régionales sont, je crois, très, très importantes. On parlait des feux de forêt au Canada en ce moment, au Québec. C'était les radios locales qui coordonnaient les évacuations de façon coordonnée, précise, versus les médias sociaux où on peut diffuser n'importe quoi. Et je crois que, malheureusement, le grand public, si les directeurs, évidemment, des chaînes, les présidents des chaînes de grands médias sont conscient de la difficulté, mais je crois que le grand public n'est pas conscient de ça. Le grand public voit des nouvelles sur Facebook. La plupart du temps, c'est des nouvelles bidons, du clickbait, des trucs atroces. Mais pour préserver les revenus des radios locales, des journaux locaux, des télés locales, à la limite, c'est un gros, gros, gros débat. Et le gros problème, c'est que la négociation en ce moment, en tout cas, un des enjeux en ce moment, c'est que est-ce que la négociation va se faire en groupe? Donc, tous les médias vont-ils se rassembler pour dire en même temps, nous voulons une part du gâteau, ou chaque média va négocier individuellement? Et là, si une chaîne de radio se négocie par rapport à une chaîne de médias écrits, par rapport à une chaîne de médias web, par rapport à une chaîne de télé, chacun va pouvoir avoir des négociations très, très différentes. Et évidemment, Facebook a le beau jeu d'attribuer différents pourcentages revenus à différents joueurs. Très complexe comme situation.
Évidemment, les GAFAM ne veulent pas négocier en groupe parce qu'ils préfèrent donner le moins d'argent possible à ceux qui ont le moins de poids, c'est évident. Là encore, alors c'est un petit peu l'émission sans solution, mais est-ce qu'il y a une issue possible à ce débat qui revient, on l'a dit, hein, au fil des années dans tous les pays? On est tous un petit peu familiers de la presse, plus ou moins, évidemment. Je ne sais pas si Lucide aurait une voix... moi, j'ai une vague idée, mais, enfin, de ce qui s'est déjà passé.
Pas d'opinion sur le sujet. Je pense que c'est bien de le dire quand on n'a pas d'opinion, donc je n'ai pas d'opinion sur ce sujet.
Et on devrait tous suivre ton exemple, je pense. Mais en l'occurrence, il y a un truc qu'on oublie parfois quand on parle de cette question spécifique, la rémunération des sites de presse par les géants de la tech. Ce qu'on oublie de dire, c'est que oui, les lois n'ont pas forcément eu un effet ou pas eu l'effet escompté. Et souvent, les grands sites ont ce poids et ils peuvent dire « bon, bah, on arrête de mettre des liens vers vous et donc au revoir, votre, je sais pas, 50, 60, 70% de votre trafic va s'évaporer en deux secondes ». Mais il n'empêche, dans tous ces pays, ça a généralement poussé les GAFAM à négocier directement avec les sites de presse, comme l'évoquait Pascal. Et donc, les sites de presse ont obtenu souvent, généralement, quelque chose. Souvent pas tout ce qu'ils voulaient, et peut-être qu'ils demandaient beaucoup pour avoir un petit peu, mais ils ont obtenu quelque chose. Il y a des programmes de soutien de la presse, il y a des systèmes de rémunération spécifiques et ponctuels ou non. Donc, je me demande si, y compris dans cette loi au Canada, le but enfin, je ne sais pas du tout, hein, mais je pourrais imaginer que le but n'est pas forcément d'établir un système de rémunération sur les termes imposés ou demandés par les sites de presse, mais plutôt de pousser, de forcer les GAFAM à la table des négociations et de faire un truc. Et je crois que c'est une stratégie qui n'est pas forcément la plus ridicule à laquelle on puisse penser, et d'utiliser la force de la loi pour tordre un petit peu le bras de sociétés qui sont trop puissantes pour être gérées par des petites sociétés plus ou moins locales, hein, que ça soit au niveau national ou même au niveau régional. Bah, c'est peut-être une solution qui, moi, il y a quelques années, que j'aurais trouvé un petit peu, pas ridicule, mais enfin un petit peu vaine. Mais aujourd'hui, je me dis, bon, si les résultats sont là, bah, les résultats sont là, quoi. Donc, bon.
Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que moi, ce que je constate avec effroi, c'est que Justin Bieber ou un acteur, une vedette, quelqu'un publie, un influenceur, disons ça comme ça, le terme m'horripile, mais quelqu'un qui publie une photo, bonjour, je bois un cocktail délicieux, comment va votre journée? 350, 450, 2000, 6000 réactions. Un organe de presse qui publie une nouvelle importante qui a été travaillée, validée, approuvée. Trois personnes qui commentent, vous êtes dévendus, vous êtes biaisés, vous êtes à coquiner avec le gouvernement, vous nous mentez. Non, la chloroquinine, c'est la chloroquine, les vaccins, c'est pas bon.
Là, tu sors du cadre de la loi sur la rémunération des...
Le fait que les gens s'imaginent que les YouTubers, les gens qui diffusent du contenu font des sous avec le web. Ils ont des ristournes, ils ont des commandites, ils ont des leurs posts et commandités, ils reçoivent des revenus. Les organes de presse, quand ils publient quelque chose, ils n'ont pas de revenus. Et donc, il y a cette iniquité. Et le fait que les gens ne cliquent pas sur les liens, ça, c'est un autre grand truc. Le fait que la manchette soit publiée, les gens ne lisent pas l'article. Si les gens cliquaient sur le lien et allaient sur le site du média, des revenus publicitaires pourraient être générés. Malheureusement, les gens ne cliquent pas. Et c'est ça que, autant que les photos de l'influenceuse vont être cliquées à mort parce qu'on voit peut-être un maillot un peu révélateur, les gens ne liront pas la nouvelle, vont commenter la nouvelle, mais ça va rester sur les Facebook et compagnie.
Ouais. Et c'est ça, je comprends ce que tu veux dire.
Si les gens cliquaient pour aller suivre la nouvelle et la lire en entier, ça pourrait générer des revenus. Malheureusement, les médias, je crois, se sont fait prendre à ne pas recevoir de revenus parce que les gens ne cliquaient pas sur la vitrine.
Ouais, peut-être moins pour les sites plus régionaux, c'est possible. Mais c'est vrai que bon, il y a du trafic qui est envoyé, hein, mais c'est vrai que souvent, on lit le titre et puis ça nous suffit. D'autant plus quand, sur Google News, il y a une partie de l'article où le petit sous-titre qui est également affiché, ça peut compliquer les choses. Bon, ce que je retiens, c'est qu'il faut des revenus différents pour la presse. Et surtout, comme tu le dis, comme tu l'as évoqué, la presse est importante. Donc, à un moment, il y a une question de comment dire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est équitable, est-ce que c'est... ces questions sortent presque de nos considérations, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la presse continue à pouvoir vivre, et c'est ça qui est en jeu, là. Donc. Bon, écoutez, on va clore cette petite partie sur les trois sujets à retenir et on va enchaîner avec des sujets un petit peu plus traités un petit peu plus rapidement. Avant ça, je voudrais vous rappeler que pour que ce site continue à exister, ce podcast continue à exister, il faut aussi qu'il rentre des revenus et donc c'est le moment que vous attendiez tous et toutes où je vous dis Kling Patrick. Qu'est-ce que ça veut dire Kling Patrick ? Kling Patrick, c'est quand vous rentrez chez vous. Vous mettez les clés dans le bol et là, vous dites « Ah merde, j'ai oublié de m'abonner au Patreon de Patrick. » Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous précipitez sur l'ordinateur multimédia qui est dans le salon et vous vous jetez sur le navigateur et vous tapez l'URL patreon.com/rdvtech. Et vous vous abonnez, tout simplement, pour une somme modique, si vous en avez les moyens, bien sûr. et vous avez non seulement des petits contenus bonus, non seulement vous rejoignez la famille des Patriotes. Oui, je dis l'ordinateur multimédia parce qu'on parlait des Skyblog, tout ça, c'est l'époque, hein, un petit peu avant. Et en plus, vous avez la fierté, le bonheur de participer au soutien de ce podcast. J'espère que vous appréciez. Si vous écoutez encore, a priori, ça vous plaît un petit peu. Donc, patreon.com/rdvtech. Quand vous arrivez chez vous, cling, les clés dans le bol. C'est, j'essaye d'inculquer un réflexe pavlovien. Les gens qui écoutent cette émission, c'est des années de marketing, hein. Les gens qui écoutent cette émission ne peuvent plus poser aucune clé dans aucun bol sans penser à moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est comme ça.
Même voilà, quand ils ont déjà payé.
Alors, ceux qui ont déjà payé, figure-toi, ont un flux sans pub et sans cette promo au milieu. Donc, ils n'entendent pas le conditionnement, mais je sais de sources sûres
que... Elles sont libérées de la malédiction du cling.
De la malédiction du cling, mais en fait, il y en a qui, pris au piège, emprisonnés par mon conditionnement, continuent à écouter le flux public. Vous pouvez lever la main dans la rue, là, ou dans le métro. Continuez à écouter le flux public, rien que pour avoir ce petit moment où je parle du cling. Donc voilà, c'est pour vous spécialement. Cling, cling, patreon.com/rdvtech.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Et avec ce petit jingle qui nous envoie dans les Caraïbes presque, on a le reste de l'actu. Allez, on va aller un petit peu plus vite parce qu'il y a plusieurs sujets à traiter. D'abord, Meta pourrait publier son application qui va entrer en compétition avec Twitter mi-juillet. Donc ça arrive, ils sont en train d'essayer d'obtenir la participation de grandes célébrités. C'est marrant, ils le vendent comme une plateforme un peu comme Twitter, mais qui serait gérée sainement. J'aime beaucoup cette manière de présenter le truc. Ça reste Facebook.
Oui, c'est un vrai argument, hein, parce que les célébrités ont toutes quitté Twitter. Hein.
Il y en a... alors...
Les grosses célébrités, il y avait une étude qui était parue quand Musk a racheté Twitter, qui avait montré que... notamment, je crois que Justin Bieber a arrêté les gros noms de Twitter avaient arrêté de tweeter.
On est plus quatre sur Twitter là s'énerver sur tous les blue check marks qui répondent de la pire des façons à tous les sujets. Donc il y a ça, mais c'était aussi un moyen d'évoquer un autre sujet parce que la plateforme en question, comme elle s'appelle Barcelona ou je ne sais plus, elle aura un nom commercial
c'est
différent.
Projet 92 pour l'instant.
Projet 92, très bien.
Un projet de loi, ça ?
Alors,
au Canada, tout s'appelle projet quelque chose.
La loi exige que Meta fasse une alternative à Twitter pour qu'on ait effectivement une alternative. Mais ce qui est marrant, il y a une chose que je note, c'est que d'une part, ce projet tournerait sur Mastodon, sur la plateforme Mastodon, mais il y a énormément de gestionnaires. De gens qui gèrent la plateforme Mastodon, qui ont signé un pacte anti-Meta. C'est-à-dire qu'ils ont dit, si Meta lance cette plateforme, nous, on va la bannir de notre plateforme à nous, de notre instance, exactement, sur Mastodon. Parce que dans le fait divers dont on parlait la semaine dernière, chacun peut décider quelle instance il accepte dans son environnement, parce qu'elles sont toutes connectées, et il y en a plein qui se mettent à signer ce pacte anti-Meta en disant, nous, on ne voudra pas de celle-là. Il y a ça d'une part, et puis il y a un article qui sera d'ailleurs dans la newsletter que je suis en train un petit peu de repenser. Vous pouvez vous y abonner sur notepatrick.com ou dans les notes de l'émission. Mais un détail des raisons pour lesquelles la migration de Twitter vers Mastodon en novembre et jusqu'à il n'y a pas si longtemps a échoué. Et j'aime beaucoup la manière dont il explique, c'est un long article, vous pourrez aller lire, dont il explique les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Et il y a plusieurs raisons. D'une part, l'UX et l'UI qui sont frustrantes dans un système décentralisé, c'est un fait, c'est compliqué à comprendre. Mais il y a aussi un autre élément qui résonne beaucoup avec cette idée de pacte anti-méta, qui est que bah, les gens qui sont très impliqués dans le métavers, dans le fait divers, sont très anti-tout, en fait. Ils sont très anti... ils ne veulent pas accepter qu'on fasse les choses autrement que la manière dont ils le voient, eux. Et il n'y a pas de point, de point particulièrement intéressant dans le fait divers, outre que le fait que ça soit open source et décentralisé. Et si on s'en fout du principe de l'open source et de la décentralisation, ce qui malheureusement est un fait hein, dans la population, eh bien, il n'y a pas d'avantage à passer à ce fait divers. Et comme en plus, les gens qui sont déjà impliqués dans le fait divers ne sont pas accueillants et n'acceptent pas, par exemple, ils sont très anti-financement. Ils veulent que le fait divers fonctionne uniquement avec les donations. Et à partir d'un moment, quand on a des centaines d'instances, des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'utilisateurs, ce n'est pas possible de fonctionner uniquement avec les donations des quelques centaines qui sont à fond dans le trip. Il y a plein de choses comme ça, et l'article en détaille une certaine partie. Ils sont vraiment... La culture de Mastodon est excluante, et c'est un truc que j'ai constaté. Même si moi, je m'y sens très bien hein, chez Mastodon, mais entre ça et le fait qu'ils signent le pacte anti-Meta, ce que ça va donner, c'est que Meta va faire son instance, et qu'elle va grossir dans son coin, et que les autres vont encore rester sur le bas-côté parce qu'ils ne... Alors, c'est difficile, mais ils ne veulent pas faire de compromis avec leurs principes. Oui, je ne veux pas qu'on fasse des compromis avec ces principes, sinon ce n'est plus des principes, mais en même temps, à un moment, il faut que ça fonctionne, quoi. Je ne sais pas, je suis un petit peu démuni face à cette situation, et le résultat, c'est que le fait divers ne décolle pas, et que l'alternative à Twitter dont on aurait besoin, bah, elle va être prise par Meta, qui sera isolée et qui va encore gérer les règles comme il le souhaite. Quoi. Bon.
Est-ce qu'on va recréer la magie de Twitter? Est-ce que c'est nécessaire en 2023, bientôt 2024?
Est-ce qu'on peut recréer la magie des skyblogs?
Magie-là. Exactement. Donc, une fois qu'on a créé, Twitter est arrivé à un certain temps, c'était des messages courts, maintenant de plus en plus longs. À quelque part...
Bah, disons ouais. Que... Vas-y.
Moi, je pense qu'un réseau social, c'est à la fois un ensemble de propriétés techniques. Donc, typiquement, quand on parle de Mastodon, le fait de soit décentralisé, c'est un aspect technique, mais c'est aussi un ensemble de choses humaines, notamment qui on y retrouve. Moi, personnellement, je me sens bien sur Mastodon, mais parce que j'ai déjà dans ma vie courante une sociabilité qui est très tech, qui est très nerd, etc. Et du coup, bah, je retrouve des gens qui m'intéressent là-bas. J'ai plein d'amis qui ont essayé de faire ce switch et qui ne sont pas restés, pas à cause de la communauté de Mastodon, mais parce qu'ils n'ont pas retrouvé les personnes qu'ils ou elles voulaient retrouver. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu en fait, principal. Et personnellement, le fait que des instances Mastodon se coupent de l'équivalent de Meta, j'ai envie de dire, ça fait de mal à personne. Enfin, si eux veulent se couper, à la rigueur, ils et elles en ont bien le droit. Ma question, c'est vraiment qui va aller sur ce nouveau service de Meta. Typiquement, je vois sur le chat qu'on mentionne Blue Sky. Blue Sky qui est effectivement beaucoup vendu comme étant la nouvelle alternative de Twitter. Moi, Blue Sky, jusqu'ici, les gens que j'y vois, c'est bon, des gens comme moi, hein, c'est des journalistes, c'est des investisseurs, c'est des start-upers, ouais, etc. Ça... après voilà, tout dépend de ce qu'on cherche dans un réseau social. Moi je trouve ça intéressant. Moi, par exemple le alors en ce moment ils ont des soucis, mais le fonctionnement à la Reddit, je trouve assez intéressant dans le sens où il y a un point commun qui est une plateforme commune, et ensuite chacun va dans les communautés qui les arrangent. Ça c'est peut-être une manière d'avoir à la fois cet internet gros et petit à la fois, mais c'est compliqué à trouver comme équilibre.
C'est ce qu'ils essayent de faire chez Blue Sky, notamment avec ces algorithmes à la demande où tu peux décider d'avoir un algorithme focalisé sur tel ou tel sujet ou tel type de réponse, ou ça pourrait peut-être fonctionner effectivement, mais oui, Blue Sky à ce stade, c'est des start-upers, des investisseurs qui se gargarisent un petit peu de cette ambiance. Ah, c'est comme Twitter à l'époque, mais c'est pas ça l'enjeu finalement de ces réseaux. L'enjeu, c'est est-ce qu'on va avoir cette place publique qu'est Twitter aujourd'hui, parce que des petites communautés entre start-upers, bon, oui, on peut en trouver, mais l'enjeu, c'est Twitter. C'est la place publique, la manière dont elle est modérée. Pour le coup, je vais revenir sur ces points-là. La manière dont elle est modérée, la manière dont les harcèlements sont gérés, etc. Et ça, c'est facile à gérer quand tu es un Blue Sky et que tu as 10 000 utilisateurs ou un Mastodon et que tu en as 100 000. Mais quand tu as 100 millions d'utilisateurs et autant de messages par jour, c'est plus compliqué, quoi. Bon.
Les réseaux sociaux, je pense... Oh, excuse-moi, il faut que je le dise.
Vas-y,
je crois sincèrement que tous les réseaux sociaux se professionnalisent. Au début, les sites web, c'était quelque chose qui allait permettre de parler de son chien, de son quotidien, de choses comme ça. Ça s'est professionnalisé. Il y a presque plus de sites web qui sont maintenus par des particuliers qui n'ont pas quelque chose à vendre ou quelque chose à diffuser, à se faire connaître. C'est la même chose pour Twitter. Au début, c'était un peu aventureux et tout. Et puis là, tu publiais, puis là, tu avais des tweets, tu avais des retweets et tout. Maintenant, c'est la course. Et là, il faut gérer de la modération. On a des milliers, des millions d'utilisateurs. On ne peut plus, à la petite semaine, ce n'est pas intéressant pour ma maman de publier « Ah, j'ai fait un beau gâteau aujourd'hui. » Personne ne va répondre. Donc tous les réseaux sociaux se professionnalisent, même sur Facebook, on le sent maintenant, de plus en plus des célébrités, des gens qui ont des choses à vendre, des gens qui ont des choses à promouvoir. Et là, on arrive dans un nouveau réseau social, on retombe un peu dans ce Far West, on a des amis, des petites communautés sympathiques, dynamiques, où tout le monde s'implique bénévolement. On regarde ce qui se passe avec Reddit, on craint que le contenu du Reddit soit siphonné par les intelligences artificielles, soit rediffusé ailleurs. On a mis une modération payante pour que... Et là, pouf, ça crée un tollé parce que les gens se sentent brimés. Et je comprends pourtant ce besoin-là de dire « Hey, vous voulez siphonner notre contenu? »
Il y a des questions de revenus aussi sur Reddit.
Revenus, malheureusement, parce qu'il faut alimenter. Il faut malheureusement que les gens mangent là-dedans. Moi, si on me retweete autant... on me retweete 1 million de fois, je ne mangerai pas plus demain matin, malheureusement.
Je crains que... en même temps, il y a des deals à faire si on te retweete.
Il y a des deals à faire, mais encore une fois, c'est pas Twitter lui-même. Je ne peux pas vivre que de tweets et d'eau fraîche.
Tu sais quoi, Elon Musk proposait de partager une partie des revenus publicitaires avec les gros... Ouais, l'idée est intéressante à explorer, mais il y a un autre lien. C'est bien, m'offres cette transition entre les réseaux sociaux et les business. Je ne sais pas si vous avez lu cet article du Wall Street Journal que j'intégrerai également dans la newsletter. Newsletter repensée qui est formidable, elle est incroyable, totalement folle. Sur l'influence qu'ont les modes et les tendances de TikTok sur les business, aux États-Unis en l'occurrence, mais j'imagine que ça fonctionne de la même manière partout. Il y a des exemples absolument saisissants, comme par exemple un cuisinier sur TikTok qui a lancé une mode ou qui a présenté une sauce particulière qu'il avait fait avec des ingrédients de Chipotle que énormément de gens se sont mis à demander chez Chipotle, tant et si bien que Chipotle a été obligé de proposer cette sauce par défaut à ses utilisateurs, à ses clients, parce que TikTok avait lancé une mode qui était tellement puissante que ça a fait courber Chipotle, la société entière. Il y a des histoires de ultra fast fashion, par exemple. La manière dont les tendances, il y a des sociétés qui étudient les tendances chez TikTok, qui vont lancer des productions de vêtements dans des styles qui ont été repérés dans les algorithmes de TikTok, encore plus vite que des boîtes de fast fashion comme H&M, Zara, etc., et qui vont lancer des productions pour plaire à TikTok en suivant les tendances de là-bas et qui vont produire quelques centaines, quelques milliers d'articles. Parfois, ils vont se planter, parfois, ils ne vont pas se planter, mais quelques milliers d'articles pour vendre et tenir suivre les modes de TikTok. Et il y a donc la puissance de TikTok qui se fait ressentir d'une manière qu'on n'avait pas vue avec autant de force, autant de vitesse dans les autres réseaux sociaux, quoi. L'article est vraiment intéressant, je vous encourage à aller le lire.
Tu parles de la puissance de TikTok, moi je parlerais plutôt de la puissance des algorithmes de TikTok.
Oui, bien sûr, c'est ça.
On permet de promouvoir ces trucs-là si ce n'était pas poussé, si c'était pas encouragé, est-ce qu'il y a des deals commerciaux derrière? C'est TikTok qui avait un bouton qui permettait de rendre plus chaudes certaines publications pour donner un buzz autour. Alors, si c'est choisi, c'est promu. Je me demande à quel point ça peut pas être trafiqué justement pour générer des fausses tendances bidons.
Je ne pense pas, mais tout est possible. Mais ce qui est intéressant à noter avec l'algorithme de TikTok, c'est qu'on a vu, par exemple, que chez Twitter, il y a depuis quelques mois une fonctionnalité qui permet de passer d'une image vidéo à l'autre. Et là où TikTok vous propose des trucs sympathiques, de la danse, des produits, de la bouffe et ce genre de choses, il y a un article que je n'ai pas mis dans les notes, mais qui expliquait que sur Twitter, on tombait plutôt sur des scènes de violence, des trucs criminels, de la violence policière. Et du coup, ça montre à quel point l'algorithme est essentiel, quoi. Puisqu'on reparle de Twitter, je ne vais pas parler de l'aspect controversé spécifiquement de ce qu'a dit Elon Musk récemment, mais je vais parler d'un truc que je disais la semaine dernière. Il y a quelques jours, Elon Musk a répondu à des questions sur le harcèlement et des débats et des engueulades entre personnes qui soutiennent les mouvements trans et des personnes, l'extrême droite américaine qui viennent les harceler et qui du coup se font... Enfin bref, il y a toute cette histoire dont on a parlé mille fois. Mais la semaine dernière, je disais qu'à VivaTech, Elon Musk a été interviewé et qu'on aurait dû lui poser des questions qui vont un petit peu au-delà de « Alors, qu'est-ce que vous pensez de la modération sur Twitter ?» Et Elon Musk répond « Pourquoi pas ?» Il dit « Moi, je veux que la loi, que Twitter respecte la loi au sens strict. Ce qui est permis par la loi est permis, ce qui n'est pas permis par la loi n'est pas permis. » Ok, pourquoi pas ? La réponse semble cohérente. Sauf que moi, ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'il faut pousser un tout petit peu plus loin, avec respect, sans le piéger, mais pousser un tout petit peu plus loin en disant « Ok, mais donc est-ce que ça veut dire que Twitter n'ira jamais au-delà de ce que demande la loi dans sa modération ? On sait bien qu'il n'y a pas un juge derrière chaque tweet, et que donc interpréter la loi, ça revient forcément à, quelque part, aux équipes de modération de Twitter. Donc il fallait poser cette question. Et il a été complètement accueilli avec énormément de complaisance, je trouve, et on ne lui a pas posé ces questions-là. Quelques jours plus tard, en répondant à ces sujets, il dit, je résume mais à peine, c'est un tweet, il dit en gros, à partir d'aujourd'hui, les termes cis et cisgenre sont considérés comme des insultes sur Twitter. Alors, est-ce que c'est un changement de politique de Twitter, de règles de Twitter officielles, c'est juste un tweet qu'il a fait, on ne sait pas, peu importe. Le truc que je note, au-delà même de la controverse sur la question du droit des personnes trans, ce qui est hyper important à noter dans la manière dont Twitter est géré, qui peut mener à des problèmes pour ces personnes et pour plein d'autres personnes, c'est qu'on ne peut pas le laisser dire « on va suivre la loi sans poser de questions à la suite » et ensuite voir « Ah bah oui, mais maintenant, moi, j'ai décidé que parce que ça me plaît pas, si, c'est une insulte. » C'est quoi, en fait, ta décision ? Et c'est pas juste « Ah bah, on regarde Elon Musk et on dit c'est marrant, il fait le clown sur Twitter. » Non, c'est pas que ça. Twitter est une plateforme sociale importante. Ce qu'il décide sur le fonctionnement de cette plateforme a des conséquences réelles sur la vie de personnes réelles. Donc, j'ai trouvé cette juxtaposition de VivaTech, où on le laisse dire « Oh, on respecte la loi et machin. » Ok, pourquoi pas, l'idée est intéressante, mais allons un peu plus loin. Et quelques jours plus tard, ce qu'il dit sur Twitter, j'ai trouvé ça d'une ironie horrifiante.
Oui, mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, et j'irais peut-être même un peu plus loin. Moi, honnêtement, j'ai été surprise que Elon Musk... Enfin, surprise, non. J'ai été choquée. Enfin, bref, je n'étais pas si surprise que ça, mais j'étais quand même déçue que VivaTech reçoive Elon Musk comme ça. Et Le Monde a publié un super édito il y a quelques semaines intitulé, je ne me rappelle plus le titre exactement, mais en gros, le propos, c'était de dire qu'on ne peut plus considérer aujourd'hui Elon Musk comme un patron comme les autres. Dans le sens où Elon Musk, il a, oui, c'est un homme très puissant, c'est un homme très riche, et qui dirige un réseau social qui est petit mais avec une influence importante. Par ailleurs, c'est un patron qui tient des propos qui, dans de nombreux pays, sont illégaux, hein, parce qu'il faut quand même le rappeler que Elon Musk, il tient régulièrement des propos qui sont antisémites, qui sont transphobes, etc. Ça, en France, en théorie, ce n'est pas légal. Et par ailleurs, qui flirte très clairement, je vais aller vite, hein, promis, ça sera rapide, mais qui flirte très clairement avec l'extrême droite américaine depuis longtemps. Et moi, je trouve ça vraiment bizarre qu'on l'invite à Viatech et que, comme tu dis, Patrick, non seulement on l'invite, ce que moi, je trouve déjà déplacé, mais en plus, on lui déroule le tapis rouge, en fait. On le laisse, on le laisse venir, on lui pose quelques petites questions sympas et en gros, on l'admire, quoi. Il était vraiment présenté comme un invité de marque. Et moi, je ne sais pas ce qu'on attend pour commencer à changer notre image d'Elon Musk, parce que je trouve qu'on n'arrête pas de dépasser des limites avec ce personnage et qu'il n'y a rien de change dans son traitement médiatique. Et moi, honnêtement, ça me désespère un peu.
Je comprends tout à fait. Moi, je ne vais pas aussi loin que toi parce que je pense... Enfin, il reste un patron d'industrie important et je comprends qu'on l'invite à Vivatech. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne lui pose pas de questions. Tu vois, c'est plus... C'était justement l'occasion parce que c'était une ambiance qui est très différente de celle de Twitter, comme on en parlait la semaine dernière. Il répondait, il était... Enfin, ce n'était pas un troll sur la scène de Vivatech. Mais on aurait pu lui poser ses questions et le mettre face au même pas face à ses contradictions, l'idée n'était pas forcément de le piéger, mais lui avoir des réponses claires sur la manière dont il gère un réseau social qui est complexe à gérer et qui pose des questions complexes et qui nécessite des réponses complexes. Tu vois, donc l'inviter, oui, je suis d'accord, je parle de l'extrême droite américaine tous les deux épisodes, ce que certains auditeurs, ce qui irrite certains auditeurs d'ailleurs, mais, et cette proximité est plus que dérangeante, mais le fait qu'on... Enfin, bref... Cette histoire-là de... à partir d'aujourd'hui, cisgenre et cis sont des insultes sur Twitter. Et c'est même pas la question, qui évidemment me préoccupe, la question du droit des personnes trans, mais c'est la question de d'où il a décidé, au lendemain du jour où il dit, et c'est sa politique, on va respecter les lois, il dit, bah non, maintenant c'est des insultes, ce mot que j'ai choisi. Genre, à partir de maintenant, tu peux plus dire quelqu'un est grand. Mais... Bref, je m'étais promis de pas trop m'emporter... sur ce sujet. Est-ce que...
C'est un câlin.
Oui, merci.
Tu veux qu'on parle de la baston après?
Est-ce qu'on en parle? Il faut petit peu en parler, forcément.
Bon, ça. Moi,
je suis prête. Hein.
T'es prête? Ok. Masculinité toxique, tout ça, Elon Musk a lancé un défi à Mark Zuckerberg. Je vais juste vous le mentionner pour le cas où vous ne l'avez pas vu passer. Elon Musk a lancé un défi à Mark Zuckerberg dans un tweet en répondant à un tweet où il dit « Ah, moi, je suis prêt pour faire un combat dans l'octogone tout de suite, si vous voulez, avec Zuckerberg. »
Un match de MMA, message.
Et le truc qui est vraiment marrant et ridicule à la fois, c'est que je suis sûr que... Enfin, je ne sais pas si Elon Musk se tient en forme, mais Zuckerberg... Il a commencé à s'entraîner au jiu-jitsu brésilien il y a quelques années. C'était l'un de ses défis de l'année. Il fait des championnats, enfin des matchs, des vrais. C'est pas, enfin, c'est un artiste martial maintenant depuis quelques années qui gagne des tournois de jiu-jitsu brésilien. À la limite, moi, j'ai envie de voir ce qui va se passer dans cet octogone parce que c'est un spectacle ridicule entre Musk et Zuckerberg. Peut-être que Musk va s'entraîner entre temps parce qu'il s'emmerde, il a rien d'autre à foutre et donc il va y avoir un vrai match. J'en sais rien. Et visiblement, ils ont parlé avec le commissionnaire de la MMA et ils sont sérieux, ils vont vraiment le faire. Je ne sais pas pourquoi ils veulent se donner en spectacle de cette manière. Enfin, encore, Zuckerberg, il est irrité par Musk depuis longtemps et puis il fait des arts martiaux. C'est un truc qu'il fait vraiment. Il y a Musk qui lui dit « Ok, on fait un match en cage ». Au bout d'un moment, il n'en peut plus. Il dit « Ok, tu m'envoies des insultes depuis longtemps ». Je dis « Ok, bah ok, allons-y, si tu veux, allons-y, on sort. Très bien, on va se mettre sur la gueule. » Mais je ne sais pas si je suis... En fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, je ne suis pas choqué, mais outré, mais je ne sais plus. Je suis à la fois choqué... Pas choqué, non, je sais... moi non plus, je ne trouve plus les termes, mais je suis désolé, ce n'est pas désolé, je suis...
C'est navrant, oui.
Navré, c'est voilà, c'est navrant. Et en même temps, moi, je comprends un petit peu Zuckerberg, qui dit, il arrête pas de faire le con sur Twitter, et il envoie des pics et il dit je suis machin et je là. Au bout d'un moment, il vient me chercher, je dis bah ok, tu veux, allons-y.
Alors, mais Je veux juste réagir juste sur ce point de Zuckerberg. J'ai lu un article super intéressant sur le Washington Post ce matin qui revient un petit peu ce que, en fait, comme
la
tu l'as dit,
dont
Zuckerberg,
il gère son
ça,
image.
Fait plusieurs mois, ça fait plusieurs mois ouais. voilà, qui met vachement en avant son intérêt pour le jiu-jitsu, ses entraînements militaires. Il est allé sur le podcast de Joe Rogan, qui est, voilà, Joe Rogan, qui est bien connu aux États-Unis pour être le podcast écouté voilà, par l'alt-right et compagnie. Enfin, en gros, Mark Zuckerberg est vraiment dans une forme d'hypravirilité très publique ces derniers mois, ce qui n'était pas le cas avant. Hein, avant Zuckerberg, il avait plutôt l'image, une autre image de la masculinité qui est celle voilà, du geek un peu bizarre, pour le dire très vite. Et donc cet article expliquait que, en fait, c'était un choix très conscient de sa part, mais aussi de la part de l'équipe de communication de Meta, ouais. Qui, en gros, se dit que si Zuckerberg, il a l'air davantage d'un bonhomme, entre guillemets, on va le respecter davantage. Et visiblement, l'article emploie vraiment l'expression de élonisation de Mark Zuckerberg. Donc, et Mark Zuckerberg, en fait, il n'est pas saoulé par Elon Musk, il veut lui ressembler. Il admire son style de gars qui en a rien à foutre, qui licencie ses employés sans dire pardon, etc. Donc il y a vraiment... Alors oui, effectivement, tu as employé l'expression masculinité toxique, je vais l'utiliser. C'est vraiment ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment un symbole de ce virilisme de l'industrie de la tech qui a toujours été là. Hein, parce qu'encore une fois, même quand les entrepreneurs de la tech étaient tous sec et ils mangeaient des chips et du coca, c'était la même chose, c'était une autre forme d'image de l'homme, mais on reste dans cette industrie de l'homme où tout ce qui compte c'est la force, c'est la violence, c'est la domination, et là de manière très concrète, personnellement moi je crois pas qu'ils vont se battre, moi je pense qu'ils ont fait un bon petit coup médiatique que d'ici 3 semaines on n'en reparlera plus, et en attendant voilà, Zuckerberg il a quand même réussi son coup, on est maintenant tous au courant que Mark Zuckerberg il est musclé, il fait du jiu-jitsu quoi.
Je peux pas te donner tort. Je suis pas convaincu. Moi, je pense qu'il va aller draguer les fans de Musk parce qu'il se rend compte que dans la tech, ça compte aujourd'hui et on peut plus juste être le nerd robotique qu'il était. Ça, c'est il veut redorer son image finalement. Mais moi, je pense qu'il voulait vraiment faire du jujitsu. Enfin, il est tellement particulier, Zuckerberg, tu vois, il s'est mis un truc dans la tête, il s'est dit...
Oui, il a des obsessions, ça c'est clair et net. Mais il ne s'est pas obsédé pour la couture, tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Non, mais il aurait pu, je sais pas, il aurait pu apprendre le point de croix, ça aurait été sympa aussi.
Non, mais tu vois, il a appris le mandarin, c'est le mandarin, je ne vais pas dire de bêtises. Ouais. Il a chaque année un
il ouais, mais tu vois, il a fait le mandarin, il y avait la chasse, il y a eu le tour du monde, enfin, il y a eu le tour des États-Unis, enfin, c'est...
Oui, il n'a pas fait le point de croix, on est d'accord. Enfin, c'était, il voulait manger que des trucs qu'il avait fait pousser lui-même ou chasser lui-même. C'était pas que, je crois qu'il n'y avait pas que la chasse, hein. Je crois qu'il a fait son jardin aussi. Mais oui, bon, c'est sûr qu'effectivement, le MMA, ce n'est pas non plus le truc le moins viril qui soit. Bon, je ne sais pas si tu vas avoir un point de vue différent sur la chose vue avec ta proximité avec les États-Unis. Pascal, mais bon, moi ça me... À la fois ça me désole, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Ça me désole, mais je peux pas m'empêcher de dire que je suis un peu curieux quand même, quoi.
Non, c'est évident, c'est comme un accident de voiture.
C'est un peu ça.
C'est dégoûtant, mais bon, on peut pas s'empêcher de ralentir pour regarder. Ouais. Je pense qu'on est dans l'information spectacle. Je pense que de faire ce genre de nouvelles-là, c'est ça qui... Chaque tweet d'Elon Musk, un peu étrange, était commenté. Zuckerberg avait une image de robot très froid. On l'associait à Data dans Star Trek.
Oui, tout à fait, oui.
Moi, je pense qu'il devrait s'humaniser. Je pense qu'avec ces défis de l'année, il se tentait de s'humaniser. Là, je crois qu'il est dans une phase de virilisation, ce qui n'est pas nécessairement l'idéal, mais je crois qu'il tente de s'afficher comme une personne socialement intéressante et fréquentable. Malheureusement, le courant est dans le Joe Rogan, dans le truc comme ça. Donc, oui, le MMA. Moi, je pense que c'est peut-être simplement une façon de se mettre en forme au départ, mais oui, ça devient une façon de taper physiquement sur les gens. Et tout ça dans un contexte où on tente de modérer les réseaux sociaux parce que ça dérape dans la violence verbale. Et là, on s'en va dans l'enflure de violence physique pour régler des conflits. Je trouve qu'on ne donne pas un très bon exemple.
L'un va avec l'autre. Hein.
Et c'est ça, c'est ça. Et les deux devraient faire preuve de jugement et justement se dire, hey, on va se faire un gros câlin, on va faire un truc pour une œuvre de charité, on va faire...
Ah ben, ils vont certainement, repas, tu vois, dire...
On va,
je sais pas ce que... Ça risque de virer en spectacle où ils font un truc genre catch et puis ils vont faire payer très cher les...
Comme c'est
les,
beaucoup les, à la mode les... par ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça maintenant. Il y a pas longtemps, j'étais aux États-Unis, j'ai vu le Logan Paul faire du catch. Enfin bon, c'est...
Ouais, je veux pas le condamner pour le principe, mais clairement, c'est pas une très belle image. Je pense que la conclusion que vous donnez tous les deux et que tu donnais Pascal, je pense que ça manque de câlins tout ça et que ils manquent peut-être de câlins de leurs parents tous les deux ça pourrait arranger bien des choses de se poser
Patrick,
un peu.
Patrick, est-ce qu'on fait un défi câlin? Je pense qu'on va faire un défi câlin.
Toujours partant.
Patrick, je te défie. J'ai envie de te câliner, Patrick. Qu'est-ce que tu réponds
Pascal,
à ça?
Le jour où tu passes par chez moi, ça sera câlin parti avec plaisir.
Tu sais que voilà, mais...
je suis...
Moi, je vais parler de point de croix, hein. Je vais pas parler de câlin.
Non. Écoute, c'est sur participation volontaire, consensuelle, respectueuse. C'est vraiment ça. Donc, tu vois, c'est tout le contraire. Mais tu vois que médiatiquement, je suis pas certain que ça va faire la une des journaux. Hein.
Le câlin,
Patrick, vont-ils se câliner?
Non, mais Zuckerberg et Musk qui font un câlin ou un concours de points de croix, peut-être que ça pourrait effectivement faire des gros titres. On va conclure avec quelques infos légales encore. D'abord, l'Union européenne a établi un projet de loi qui s'appelle le European Media Freedom Act, qui a été dénoncé par de nombreuses associations, notamment de journalistes, pour un point précis. Elle permettrait à des gouvernements de mettre sur des téléphones de journalistes des spyware, des logiciels espions, dont très spécifiquement l'un des problèmes qui est pointé du doigt, c'est que ça pourrait avoir un effet, alors comment on dit, un chilling effect, un effet refroidissant sur les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que si un lanceur d'alerte se dit « ma communication avec un journaliste n'est plus à 100% protégé par la loi et par la technique », et ben du coup, je vais juste pas aller voir les journalistes, et donc ça peut avoir un effet néfaste sur ces points-là. Donc, je voulais le mentionner. L'Union européenne et les États-Unis semblent être en train de réfléchir à la possibilité de séparer le business pub de Google du reste de l'activité de Google. C'est un souci qui est de plus en plus important pour tout un tas de raisons. Enfin, on connaît le problème de la taille de Google et le problème de sa mainmise sur le business de la pub. Et donc, des deux côtés de l'Atlantique, on commence à réfléchir à une procédure pour séparer la partie ad tech de Google du reste de son activité. Ce qui est intéressant, c'est que la partie ad tech de Google, c'est la seule partie qui fait de l'argent, à peu de choses près. Donc, Google, c'est une agence de pub. Au niveau business, c'est que ça. Donc, c'est pareil, je ne sais pas à quoi ressemblerait ce qui reste, quoi. Et à côté de ça, il y a Thierry Breton qui est allé en Californie pour parler du Digital Services Act justement à Elon Musk et Zuckerberg et d'autres. Et étrangement, quand on a le proviseur qui vient dans la classe, tout le monde est beaucoup plus gentil que quand on fait le fanfaron sur Twitter. Thierry Breton, qui n'est pas le premier à ouvrir sa gueule pour condamner les frasques des uns et des autres, a eu l'air de dire que ils sont tout à fait prêts à collaborer, tout va bien, ils vont faire les stress tests, ils vont bien travailler ensemble. Après, on verra si ça se passe bien comme ça, effectivement. Mais Thierry Breton avait l'air de dire oui, il bosse avec nous. Donc, quand l'Union européenne tape du poing sur la table, les choses se passent un petit peu mieux. Et je crois qu'on arrive au bout de cet épisode passionnant du Rendez-vous Tech. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi. Merci d'avoir partagé vos expertises et vos idées. On va se quitter là, mais avant, j'aimerais que vous me disiez où on peut vous retrouver si on veut prolonger l'expérience. On va commencer avec Pascal. Où es-tu sur Internet? Dis-moi tout.
Partout. Magie, la dématérialisation, je suis partout sur Internet, sur Twitter, nous soyons, sur Facebook.
Nous pouvons avoir un... Est-ce que tu utilises encore Twitter, Pascal?
J'utilise, écoute, rarement Twitter. Je suis un peu old school. Ces temps-ci, je me suis... Évidemment, je suis toujours un réseau social en retard. Ce n'est pas ma force.
Donc, tu es sur Facebook.
J'ai découvert Reddit récemment. Ah. Et là, boum, tout devient noir, tout de suite. Je suis comme, oh non, j'ai commencé à m'y plaire. Et trouver une belle façon, des belles communautés. En tout cas, certaines sont assez intéressantes. Mon site web, pascalforgette.com, je suis là. Vous pouvez me commenter, m'écrire. Mon adresse est là si jamais vous avez des questions. Le podcast Une tasse de tech, j'écris pour un magazine qui s'appelle Le Bel Âge. Pour les 50 ans et plus, pour les gens de l'âge d'or, comme on le dit ici. Je vais faire des émissions à la radio, à la télé, un peu partout. Alors, on peut me trouver. C'est facile.
Magnifique. J'allais te proposer le hug challenge sur Twitter. Si on t'envoie un hug sur Twitter, tu sais, un petit emoji comme ça, est-ce que tu réponds avec
un hug avec grand plaisir. D'accord. Avec grand plaisir et j'espère que ça va faire la une. J'espère que Lucie, tu vas rediffuser ce grand match, ce grand câlin, ce match qu'on attendait, cet événement qu'on ne retrouvait plus, cette réconciliation entre le Québec et la France.
Alors attends, je fais tout de suite.
Attends un peu. Il faut que je trouve l'émoji qui fait l'inverse.
Hug. Comment on fait pour faire un hug? Je vais le retrouver.
Merci, je suis content.
voilà, un petit hug à Pascal Forgette. Lucie, où peut-on te retrouver sur Internet?
Alors, moi, je suis principalement encore sur Twitter, donc @LucieRonfo, et sur Mastodon, pareil, Lucie Ronfo, et je suis sur l'instance XYZ. Vous pouvez me trouver assez facilement. Et puis sinon, puisque c'est d'actualité, je vous invite à écouter ma série documentaire pour Binge Audio sur les Skyblogs, dont on a parlé en début d'émission. Et puis, évidemment, si le cœur vous en dit, de vous abonner à ma newsletter. Elle s'appelle Règle 30, hashtag Règle 30. Si vous tapez Règle 30 Lucie Ronfo ou Règle 30 Numérama, vous devriez la trouver facilement parce qu'elle est proposée par Numérama, que je salue.
Tout à fait, et je suis personnellement abonné et j'apprécie de la recevoir chaque semaine. Et je viens d'aller te suivre sur Mastodon également.
Ah.
Parce que j'utilise Mastodon, c'est juste que je suis...
Mais moi j'aime bien Mastodon, ouais. c'est plus lent, c'est plus tranquille.
C'est pas Lucie Ronfon, c'est Lucie Ronfo. On va y arriver, voilà.
C'est du français ronfard qui veut dire râleur.
Voilà. Ah bah écoute, tout s'explique. On comprend. Non. C'est sorti tout seul. Je suis désolé. Pourquoi je t'aime bien, tu vois, c'est que moi, je t'aime bien. Bon.
Ce sera notre câlin à nous.
C'est très bien, très bien. Patrick Béja, un petit peu partout, c'est notre Patrick sur Mastodon et ailleurs. Vous trouvez tous les liens dans les notes de l'émission, notamment le lien vers le Discord, le lien vers le Twitch, le lien vers la newsletter. J'espère qu'elle vous plaira, la nouvelle formule. Et surtout, le truc à ne pas oublier, c'est le Patreon, patreon.com/rdvtech, pour soutenir l'émission financièrement. Si vous aimez les câlins, eh bien, vous pouvez, par Patreon, je vous promets que si vous m'envoyez un message, c'est peut-être dangereux ce que je suis en train de faire, mais si vous êtes patriote et que vous envoyez un message de câlin, enfin, un emoji câlin, je vous promets de vous répondre avec un emoji câlin. Voilà, le défi est lancé. Je pense que...
les petits cœurs.
Mais seulement les patriotes. Hein. Non, j'envoie des câlins à tout le monde. Patriote, pas patriote, Twitter, machin. Vous m'envoyez un emoji câlin. Vous savez, je vais vous raconter un truc très rapide. Les Finlandais ne sont pas connus pour être hyper chaleureux. Moi, je viens du Moyen-Orient. Dans ma famille, c'est câlin tout le temps. On se dit qu'on s'aime, on se fait des bisous, machin. Quand j'ai rencontré ma femme, c'était limite, elle n'était pas très à l'aise pour se tenir la main dans la rue. Ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça fait presque 15 ans qu'on se connaît, et avec les enfants et toute la famille, c'est câlin tout le temps, et je t'aime plus que tout, et des bisous et des machins. Donc, je peux vous dire que ça fonctionne très bien, et elle est bien plus heureuse aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, je pense, j'espère. Donc voilà, les câlins, c'est partout avec Patrick. Je vous remercie de nous avoir suivis, et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode, le dernier avant le break des vacances. Il sera forcément incroyable. Merci à tous. Ciao, ciao.
Au revoir.